Et donc j'invite Grégory Murat, qui est le directeur du service commun de la documentation de l'Université de Bordeaux, à venir clôturer la journée par un exercice périlleux, celui du grand témoin. Puisque Grégory a écouté tous les échanges tout aujourd'hui et il va essayer de restituer à la lumière de son expérience en tant que joueur, en tant qu'ancien responsable du dépôt légal numérique à la BNF, tout ce qui s'est dit aujourd'hui et d'apporter un peu de hauteur à ces échanges.
Pas plus d'un mètre 79 et demi, je vous rassure. Merci beaucoup aux organisateurs d'avoir pensé à faire appel à moi pour cette tâche délicate du grand témoignage sur le déroulé de cette journée. Et merci à l'ensemble des intervenants pour la richesse du propos, du débat. On a la démonstration déjà d'emblée d'avoir affaire à un vaste sujet, un sujet dont on peut finalement pas faire l'impasse aujourd'hui, quelle que soit la position d'où l'on parle et quelle que soit sa pratique quotidienne. Alors, Mélanie le rappelle, effectivement, le témoignage pris au premier sens du terme, c'est censé être un récit, un rapport objectif sur des événements qui se sont déroulés, mais on le sait bien, chaque récit et tentative d'objectivité se fait à partir de sa propre subjectivité et elle a vendu la mèche effectivement par rapport à toutes les catégories statistiques que nous avons vues toute la journée en matière de joueurs. Je dois rentrer dans la quasi-totalité des catégories, c'est-à-dire joueurs de jeux vidéo, joueurs de jeux de plateau, joueurs de jeux de rôle. J'ai manipulé le jeu vidéo en tant que matière professionnelle lors de mes 5 années passées à la Bibliothèque nationale de France. Le foyer que j'occupe et la famille que j'ai la chance d'avoir consacre environ 8 mètres linéaires à toute forme de jeu dans différentes pièces de la maison. Je dois avouer que oui, je joue à Golden Axe avec mes enfants. Je sais, c'est pas très beau, mais voilà. Donc, on fait des choses des fois. Et puis, donc, effectivement, le regard que je porte sur toute cette activité se fait à partir d'un parti pris. Alors, la question que vous êtes probablement tous posés, c'est mais qu'est-ce que vient faire un collègue de bibliothèque universitaire sur le sujet du jeu ? Alors, est-ce que c'était pas un peu facile de faire que Barson passait à la Bibliothèque nationale de France, il ait pu approcher un peu de jeux vidéo? C'est peut-être aussi le marqueur que ce jeu, finalement, est quelque chose de tellement commun que même dans un milieu comme celui des bibliothèques, parce qu'on a beaucoup parlé d'opposition, j'y reviendrai, entre bibliothèque et ludothèque, mais même au sein de la bibliothèque, si nous formons une grande famille, il y a le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, le monde de la culture. Nous avons la chance de faire un métier interministériel, comme on dit dans le milieu. Et pour beaucoup de collègues, voilà, on est soit enseignement supérieur, soit culture. Certains considèrent que ce n'est pas la même chose. Et je vais même vous avouer quelque chose, dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, on trouve le moyen de faire la différence entre les collègues qui exercent en enseignement supérieur et ceux qui exercent en recherche. Donc c'est vraiment formidable. Tout ça pour vous dire que finalement, ces questions d'identité, elles sont importantes dans la manière dont on a de s'inscrire dans notre pratique professionnelle, mais qu'à un moment donné, il faut savoir prendre un petit peu de recul pour parler de questions de fond. Donc oui, le jeu est un sujet universitaire. J'ai la chance de diriger le service qui, donc sous son appellation administrative de service commun de documentation. Mais enfin, en fait, c'est toutes les bibliothèques de l'Université Bordeaux-Montaigne qui sont regroupées dans ce service, dont la bibliothèque de l'IUT Bordeaux-Montaigne qui travaille avec la filière de formation aux animations de ludothèque. Et donc, on peut, ça sert de bibliothèque d'application aussi, on peut, les étudiants de la filière, mettent à disposition des jeux à la bibliothèque de l'IUT. Des animations peuvent avoir lieu et j'espère que dans les années à venir, on pourra accélérer sur ce type de partenariat et de présence du jeu, puisque le jeu est un sujet universitaire par le biais de cette filière, mais il faut le savoir aussi, le jeu est présent maintenant, est un sujet d'étude en art, en sciences de l'information et de la communication. Donc le jeu est un sujet partagé au sein des universités. Et si j'étendais à l'Université de Bordeaux et au parcours en informatique, le jeu aussi est un bel exemple dans sa dimension jeu vidéo de technologie appliquée et donc de formation appliquée à un secteur industriel. Le jeu, on l'a évoqué rapidement ce matin, peut aussi être, là on est tous obnubilés par nos questions de service et de lien avec les publics, mais on peut aussi l'utiliser en interne. J'ai pris la direction du service depuis un petit peu moins de 2 ans et pour le traditionnel séminaire de fin d'année de mon équipe, l'été dernier, j'ai imposé à tout le service un quiz et un blind test, histoire de finir sur une note vivante, de faire travailler l'équipe dans une configuration où on laissait un peu de côté les questions de projet de service, d'organigramme, et qu'on faisait se révéler des compétences, des intérêts, des affinités. J'avoue qu'on a passé un très bon moment et je compte bien réitérer l'expérience. Donc j'en ai fini avec le d'où je parle. Alors si je devais résumer la très haute qualité des débats, j'aurais envie de faire ça en 3 temps. D'une part, on le voit bien, se pose la question avec le jeu de sa légitimité. Alors après la journée que je viens de passer, j'ai envie de me dire, mais est-ce qu'on a encore le droit de poser la question de la légitimité du jeu aujourd'hui ? Franchement, quand vous imaginez un objet qui est le creuset d'influences culturelles qui viennent de quasiment la totalité des médias, qu'aujourd'hui les autres médias s'inspirent eux-mêmes du jeu vidéo, que ce jeu est le support de pratiques différenciées, c'est-à-dire qu'on voit apparaître différents types de joueurs pour différents types de jeux. Certains jouent à tout, d'autres n'aiment jouer qu'à certains jeux. On a même des pratiques de joueurs au sein même d'une partie des jeux, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs profils de joueurs de jeux vidéo, comme on peut avoir plusieurs profils de joueurs tout court, entre ceux qui aiment pousser des cubes en bois et ceux qui aiment gérer des ressources, ceux qui aiment les jeux d'argent et ceux qui aiment contrôler une ferme de 500 hectares. Donc on voit bien qu'on peut faire beaucoup de choses dans le jeu, qu'on a une part de la population qui joue, qui est la plupart du temps, en fonction des critères qu'on utilise, majoritaire, que le jeu en est arrivé à un niveau de développement que derrière lui, il emmène un secteur économique avec des enjeux financiers. Et donc, qui dit enjeu financier, dit enjeu politique, enjeu de régulation, enjeu de contrôle. Il n'y a qu'à voir les débats. Tournez-vous vers l'actualité et regardons un petit peu comment Ubisoft se débat dans ses tentatives de rapprochement amical, économiquement amical, de Vivendi, par exemple, pour se rendre compte qu'aujourd'hui, le jeu est un enjeu économique, est un enjeu de société. Comment les pays, les États eux-mêmes sont dans une concurrence effrénée pour attirer à coup de subventions, de régimes favorables, les meilleurs fleurons du développement du jeu vidéo, par exemple, si on pense à l'Écosse ou au Canada. Donc, le jeu réussit à se renouveler, c'est-à-dire que le jeu vidéo qui avait vraisemblablement annoncé, comme beaucoup d'âneries avec le numérique, le jeu vidéo étant numérique, on avait dit ça va tuer les autres formes de jeu. Alors certes, il y a eu une période difficile, mais on voit bien aujourd'hui, on a vu les chiffres de production, du nombre de titres, que le jeu est capable de se renouveler, de recréer de nouveaux publics, on est capable de revenir au jeu. À tel point que le jeu est maintenant patrimonial depuis un certain nombre d'années. Le jeu a une histoire, le jeu a connu des évolutions. Le jeu connaît une mode rétro, une mode indé, une mode mainstream, les jeux les plus grands publics, qu'on a même des archétypes, des caricatures du joueur. La figure du geek étant symbolique d'une compilation d'à peu près toutes les pratiques ludiques de la fin du XXe siècle. Donc, Aujourd'hui, peut-on réellement poser encore la question de la légitimité? J'ai tendance à avoir des doutes. Il faut la rappeler, on peut l'analyser. On a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui la question des compétences induites par le jeu. Donc qui dit compétence dit apprentissage, dit formation, dit dans certains cas élite du jeu. Il y a des grands joueurs, des joueurs occasionnels, des joueurs chevronnés, des joueurs amateurs, des joueurs du dimanche. Donc tout ça nous montre aujourd'hui qu'on est devant un phénomène culturel complexe. Deuxième point, le jeu, on le voit maintenant du fait de sa place, de la place qu'il a prise, et c'est la raison d'être de notre présence aujourd'hui, comme un enjeu de service. Alors, dans le cadre d'un service qui, pour l'instant, que ce soit les bibliothèques, les ludothèques, dans le cadre d'un service public ou d'un service associatif, donc qui est vraiment tourné vers le plus grand nombre, se pose la question des objectifs qu'on affecte au fait de proposer des jeux. Et donc, on l'a vu à plusieurs reprises, pourquoi proposer des jeux, quel que soit le contexte dans lequel on le propose. Et donc, se fait toute une réflexion de savoir de quoi le jeu peut-il être vecteur. Est-ce que le fait de le mettre au cœur de politique publique ou le fait de le mettre au cœur d'une politique d'offre de services, est-ce que c'est pas instrumentaliser le jeu? Est-ce qu'on court pas le risque de surcharger de sens le jeu, alors qu'on l'a bien vu au niveau théorique, le jeu est censé à un moment donné permettre à chaque joueur de fixer ses propres règles, à chaque joueur d'ouvrir sa séquence ludique, de lui laisser la possibilité de la refermer quand il le souhaite, tant qu'avec les gens avec qui il fait sociabilité de jeu, les codes qu'il partage parfois simplement à deux, voire tout seul, on peut jouer tout seul, sont en accord avec son objectif ludique. Donc cette question de savoir jusqu'où on peut aller avec le jeu, certes, politiquement, c'est intéressant. On pense à l'émergence, par exemple, de la question de l'apprentissage avec le jeu ou, dans le domaine du jeu vidéo, du jeu sérieux. Parce que pour faire bien, il faut faire sérieux. Ou pour que le jeu soit valide, il faut qu'il nous apprenne quelque chose. Mais la question fondamentale en termes d'offre de service, c'est de savoir si on est obligé de passer par cette étape-là ou pas. Aujourd'hui, on a vu... on a brassé énormément d'idées. Je vous rassure, je n'ai pas la réponse idéale à cette question-là, mais le fait que la question existe est déjà particulièrement intéressante dans la manière dont nous pouvons nous positionner. Alors, la journée s'intitulait « Jeux en bibliothèque ». Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on part, à plusieurs reprises, on part de l'arrivée de ce média-là, de ce support-là, de cet objet-là au sein de la bibliothèque, et dans la manière dont c'est un enjeu de service, ce qui est intéressant, de mon point de vue, dans tout ce qui a été dit par rapport à la bibliothèque, c'est que le jeu mérite de bousculer les cadres. Et que, par nature, le bibliothécaire, il aime bien que tous les cadres soient bien alignés. Et que les choses, elles rentrent bien dans les cases. Et qu'en général, une chose à sa place, parce qu'on est quand même là pour donner l'ordre de classification du monde, et que le jeu... par sa pratique de l'espace, sa pratique du mouvement, de l'usage, des usagers, par sa gestion de l'aléa, de l'aléatoire. Ça, c'est vraiment intéressant en termes professionnels. C'est comment on fait rentrer quelque chose d'aléatoire dans un établissement qui est conçu sur la prévision. C'est comme quand en bibliothèque universitaire, le nouveau défi qu'on veut relever, c'est faire des services à la demande pour les chercheurs. En bibliothèque, on est habitué à faire des services qui tournent du 1er janvier au 31 décembre et d'avoir prévu tous les cas qui se présentent. D'ailleurs, ça nous met beaucoup de stress de penser, imaginer qu'on n'a pas prévu la réaction d'une personne, d'un individu, d'un membre de notre public. Eh bien, c'est bien dans cette situation-là que nous met le jeu. C'est d'intégrer dans un fonctionnement, donc dans une organisation, quelque chose qui peut provoquer éventuellement du chaos sans qu'on sache exactement d'où ça peut venir. Et c'est là, professionnellement, que ça devient intéressant. Parce que du coup, on est bousculé dans nos habitudes et donc il y a une capacité à organiser le chaos. Je vous laisse avec ça, vous allez voir, organiser le chaos, c'est tout un truc, mais en termes de challenge professionnel, c'est plutôt pas mal. Donc cette forme d'insécurité, quelque part, à un moment donné, avec ce jeu, dont on ne sait pas s'il faut le charger de sens ou pas, elle finit, comme toute nouveauté dans un domaine, à interroger la place de la bibliothèque en tant que telle. Finalement, Certes, c'est à l'occasion de l'introduction du jeu, mais la question de base qu'on se pose, c'est à quoi on sert ? Hein ? Alors, le jeu me permet de provoquer cette prise de conscience et cette réaction, mais on revient toujours à ce réflexe que moi j'estime être salutaire, c'est à un moment donné de se dire que tout n'est pas inscrit dans le marbre, et qu'il faut se poser la question du à quoi on sert, et tant qu'on sera capable de se la poser, c'est qu'on est en bonne santé. Et je vais en finir avec, du coup, cette dimension d'enjeu professionnel. On a vu des débats assez tendus dans la journée, par moments, ou en tout cas, mais toujours de très bon niveau, hein, je tiens à le signaler, autour de ces questions d'identité professionnelle. C'est-à-dire, à un moment donné, on a besoin de revendiquer ce qu'on sait faire. Et forcément, on est dans un paysage d'une offre de service. Donc, la comparaison, c'est souvent tout ce qu'on a pour... Enfin, c'est assez pratique, c'est un côté pratique. Définir son identité par rapport à l'identité des autres. En cette période politique, j'aimerais que vous fassiez vous alerter sur cette problématique du recours unique à l'identité. À un moment donné... Je l'expliquais en introduction, on est capable de recréer l'identité, on peut même créer des micro-identités. À l'université, on est très fort pour ça. On l'a même institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il faut savoir que dans un service de documentation universitaire, vous avez des collègues qui sont tous titulaires, mais qui ne relèvent pas de la même filière de la fonction publique. Hein ? Alors, moi, au quotidien, j'ai à gérer des collègues, par exemple, où simplement les dates de promotion... mais ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a pour lesquels on fait les dossiers en février et d'autres, les dossiers, on les fera en mars. Et on sait que ça ne va pas dans le même conseil. C'est-à-dire que ça va dans deux bureaux différents au ministère, jugés par deux comités différents. Donc vous voyez qu'on est toujours capable de créer des identités professionnelles partout où elles peuvent se nicher. Derrière cette question d'identité, c'est se poser la question de nos compétences et surtout de nos missions. C'est-à-dire à quoi on sert et pourquoi on le fait. Et je pense que c'est la vertu de l'arrivée du jeu, la vertu de la confrontation de collègues qui se professionnalisent, les ludothécaires, c'est de questionner la manière dont on peut servir nos missions. Et que finalement, l'institution, la bibliothèque, la ludothèque, mais j'ai envie d'étendre les archives, les musées, c'est bien. Mais la question, c'est à quoi on sert dans la société ? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, de mon point de vue, de décréter que, ben voilà, je suis bibliothécaire dans une bibliothèque. Et je n'ai rien à ajouter, ça tombe sous le sens, une bibliothèque, donc je me pose là et venez pas me piquer ma place. La question, c'est plutôt, mais une bibliothèque, à quoi ça sert ? À quoi ça a servi par le passé ? À quoi ça sert aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'on peut avoir envie de relever comme défi demain ? Et du coup, une fois qu'on dit ça, on se dit que pour rendre ce service, eh ben que peut-être... Plusieurs l'ont évoqué à de multiples reprises. Dans la gestion des compétences, il faut réfléchir à tout ça. Et donc, la question, c'est pas de savoir ou d'arbitrer s'il faut des experts ou de la polyvalence. Très honnêtement, je vous déconseillerais de vous lancer dans cette bataille-là. La question, c'est plutôt de se dire que pour construire ou offrir un service, en fonction de ses contraintes d'exploitation, de ses moyens, de ses intuitions, des compétences qu'il y a présentes au sein de l'équipe, de ses capacités de recrutement, du poids qu'on peut avoir sur la formation continue, la formation initiale, eh bien, on doit jouer sur autant de curseurs que sont l'expertise, la polyvalence. Peut-être qu'il faut un peu des deux, parce que parfois, de dire que il faut des experts, ça a pu nous perdre aussi. Nous, en tant que bibliothécaires, on était arrivés, je m'adresse aux collègues ludothécaires, en tant que bibliothécaires, le coup des experts, on se l'est déjà fait à nous-mêmes. Dans nos équipes, on avait le collègue en charge des livres, des périodiques, papier, du numérique, de la jeunesse, de la musique, du cinéma. Qu'est-ce que tu fais ? Ben moi, je suis le média. Oui, mais derrière, qu'est-ce que tu fais ? Et on se rend compte qu'en fait, derrière cette organisation quasiment en silo, les collègues en partagent des fonctions qui relèvent de l'acquisition, de la médiation, du signalement, de la recherche et développement, des services hors les murs. Et que parfois, en ayant un peu moins d'experts par filière, un peu plus de transversalité sur certaines fonctions qui peuvent être critiques. Par exemple, Le choix de l'expertise peut varier en fonction de son contexte d'exploitation. Les experts en bibliothèque universitaire ne sont pas les mêmes que les experts en bibliothèque municipale, parce que nos priorités ou nos publics ne sont pas les mêmes. Donc l'idée, ce n'est pas d'opposer un modèle à un autre, c'est de pouvoir jouer sur tous les tableaux. Et donc ça veut dire aussi que pour rendre les services d'une bibliothèque, eh bien, peut-être qu'on a besoin d'embaucher des ludothécaires, oui. Mais pourquoi pas ? Mais de la même manière qu'on a besoin d'informaticiens, qu'on se rend compte progressivement que des spécialistes en communication, ça fait pas de mal dans un bon nombre de services documentaires d'université. Donc la mixité des parcours professionnels autour des missions avec un grand M que la bibliothèque peut rendre, c'est de se dire qu'elle n'est pas forcément assurée que par des bibliothécaires. Et qu'il ne faut pas négliger cette question de la polyvalence, parce que là je parle d'expertise, mais n'oubliez pas que la polyvalence, quand vous avez une équipe, c'est l'occasion d'éveiller des collègues à des évolutions de leur métier. Et que donc, de dire que les bouquins, c'est pour le bibliothécaire, les jeux, c'est pour le ludothécaire, au bout d'un moment, pour le bibliothécaire, il y a le risque de la sclérose professionnelle. Et ça, c'est très mauvais pour un individu comme pour une organisation. Donc, de pouvoir jouer sur un peu d'ouverture, alors moi je suis bibliothécaire, mais j'essaie de comprendre un peu cet objet qu'est le jeu. Qu'est-ce que ça joue sur ma fonction ? C'est pour ça que les experts, par exemple, dans un service documentaire, peuvent avoir dans leur mission le fait de faire que les polyvalents qui sont dans le service doivent monter en compétences, les faire participer à vos activités. Donc il y a plein de leviers de ce type-là. Et fondamentalement, après tout ce que vous avez dit, je ne crois pas à la recette miracle de l'un ou de l'autre, mais c'est d'essayer au contraire de dire que pour les missions de la bibliothèque, on n'a pas forcément besoin au XXIe siècle que de bibliothécaires. Parce que on s'est beaucoup renvoyé nos identités professionnelles au visage, mais il ne faut pas oublier de mettre les responsables devant la responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, organiser le travail, c'est quelle politique de ressources humaines du directeur, du chef de service, de l'équipe présidentielle de l'université, du conseil municipal, d'un directeur général des services. C'est pas forcément à nous de devoir arbitrer ce genre de choses, et qu'au contraire, on gagnerait à être encadré par des tutelles qui intègrent cette question de l'évolution des compétences, de faire rentrer d'autres professionnels dans les organisations. Il faut savoir ne pas se faire mal, on n'est pas responsable de tout dans nos établissements. Il y a aussi des gens dont c'est le boulot, et en général, ils sont un petit peu plus payés que vous et moi pour le faire. Donc, les mettre devant leurs responsabilités, c'est pas plus mal. Ne répétez pas ça à mon directeur général des services. On est filmé, c'est ça ? Bon, ben, trop tard, il le saura. Donc, et puis par ailleurs, voilà, moi je crois beaucoup à la fertilisation croisée. Alors je ne sais pas si je n'ai pas explosé mon timing, parce que vous l'aurez remarqué, j'ai parfois du mal à faire court, même si j'ai essayé. En conclusion, sur tout ça, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, au-delà de la question bibliothèque, ludothèque, bibliothécaire, ludothécaire, la place prise par le jeu dans nos sociétés contemporaines fait que le jeu doit être un enjeu de politique publique, purement et simplement. Il faut prendre ce dossier par un bout. Alors, il se trouve que les ludothécaires et les bibliothécaires, ben, ça les intéresse de se penser sur le sujet, plus que les collègues des arts, de l'éducation artistique ou d'autres, et encore, quoique, d'autres secteurs. Donc, nous sommes à disposition de nos politiques pour permettre d'alimenter ce débat et ces enjeux. Mais c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment donné, tout n'est pas opposition d'identité pro. Il faut replacer ça au niveau de la question de la politique publique, d'où les questions de labellisation qu'on évoquait tout à l'heure. La labellisation, alors méfiez-vous, parce que la labellisation, nous, on nous a déjà fait le coup. Il faut vraiment que ce soit une étape et que vous ayez déjà négocié la suite. On ne s'arrête pas à la labellisation. C'est bien, mais il faut que la suite arrive. Deuxième élément, par rapport à ces questions de légitimité, et finalement, pour en finir, est-ce que le jeu, par un certain côté, c'est pas le stade ultime de la création humaine ? Parce que voilà un objet, un média, qui met ensemble un récit littéraire, celui d'une partie, une mécanique quasi-scientifique, celle des règles de jeu, et une esthétique, parce qu'on rentre dans un monde, dans un imaginaire, par le biais de supports de représentation. Donc, Moi, ce que j'ai envie de dire, finalement, en vous écoutant, c'est que le jeu, on évoquait ce matin le fait qu'on s'extrait dans le jeu pour oublier un peu la difficile rationalité de la vie. Et moi, j'ai envie de dire que finalement, le jeu, c'est la vie, et c'est ce qui nous rend vertigineusement humains, et il est bon que nos politiques et nous-mêmes continuions à nous en occuper. Je vous remercie.